Ben, l'accès libre au transport, ça nous est apparu dès 98, au départ du vécu de chacun, mais ensuite dans un projet d'occupation, un projet de centre social, comme un des ingrédients, une des nombreuses démarches et interventions qui ressortaient comme expression collective du mouvement des chômeurs, qui était une façon très très concrète de reprendre prise sur un quotidien à partir des situations de chacun sur des équipements collectifs qui nous relient tous et qui enfin vraiment qui une démarche ancrée dans le quotidien quoi. Pour nous c'était un bon levier. Ça n'impliquait pas ni de partir d'une formulation large ou de grands idéaux. C'était quelque chose de très palpable qui apportait d'emblée un plus au mode de vie de chacun quoi. Donc on a décidé de prendre ce problème à bras le corps à cette époque en 98.
Donc depuis 98.
Bon, je vais ajouter simplement que les personnes du collectif Santiquet étaient déjà pour la plupart impliquées dans des groupes de chômeurs, de résistance en somme au dispositif de contrôle et d'encadrement de l'attribution des indemnisations de chômage, des choses comme ça, qui en Belgique ont des formes différentes de la France, mais je crois que c'est à peu près au même niveau, de type violation de domicile, donc des visites domiciliaires pour vérifier que tu es bien isolé quand tu as déclaré que tu vivais seul et pas avec quelqu'un d'autre, puisque même la présence de deux brosses à dents dans une armoire peut être un signe de duplicité. Donc on était sur ces luttes-là, et très pratiquement, depuis donc déjà 6 mois environ, pour nous rencontrer entre groupes à Bruxelles, il y avait un collectif, ou à Liège, ou à Anvers, etc. La question de l'accès au transport, aux équipements collectifs de transport, était nécessaire, était évidente. Et le pari initial a consisté à dire non seulement nous avons besoin de nous déplacer, en plus c'est un désir pour d'autres motifs que simplement aller chercher du boulot ou nous organiser pratiquement. Il y a aussi des souhaits parfois d'aller, je sais pas moi, boire un verre à la côte ou se rencontrer entre copains plus largement. Et par ailleurs, il y a un travail là qui vaut la peine d'être entamé sur des questions qui d'habitude sont abordées sur le mode de l'individuel et de la clandestinité, grosso modo. On peut même parler de choses qui ne sont pas reconnues comme ayant un caractère politique. C'est de l'infra-politique. Te déplacer si tu n'as pas de fric, c'est ton affaire, tu bricoles, tu parviens à t'en sortir en esquivant les contrôles, ou si tu fais partie d'un groupe, tu as la chance de demander aux copains de te prêter un peu de fric. Bon, éventuellement, tu introduis même un dossier parce que tu es chômeur et il y a des réductions dans ta région. Mais ça s'arrête là. C'est très peu présenté ou abordé comme soulevant des questions collectives réellement et travaillé sous cet angle. Et dès le départ du collectif Santiquet, même si clairement c'était des questions pratiques qui nous ont amené à nous pencher sur le truc, ça a proliféré, on a essayé de faire foisonner ça comme un champ à part entière d'émergence politique où on pouvait afficher et expérimenter dans le quotidien d'autres formes d'intervention.
Donc le démarrage un petit peu de l'aventure, c'est 98. C'est à peu près en parallèle au mouvement des chômeurs en France. Les chômeurs qui commencent à s'organiser, qui descendent dans la rue suite aux différentes marches qu'ils avaient organisées de convergence, en particulier à Amsterdam en 97. Donc vous avez eu une démarche sur la question du transport essentiellement à partir de 98. Et donc vous avez développé un certain nombre de pratiques au niveau du discours, au niveau du terrain, par rapport aux usagers des transports sur Bruxelles, également sur Liège, je crois.
Oui, il y a eu la rencontre donc entre le CACH, le collectif autonome des chômeurs, qui avait ses activités dans le centre social que j'évoquais, et un autre groupe de militants activistes très comiques, des Liégeois, qui avait fait un groupe qui s'appelait Chômeurs pas chiens. Alors le nom déjà est très évocateur, quoi. Chômeurs pas chiens, c'est ça, quoi. C'est du pain et des roses, quoi. Donc surtout ce travail qu'évoquait Laurent par rapport au droit, au respect à la vie privée et tout ça. Et ensemble, on a décidé de former ce collectif d'usagers, collectif Santiquet. Alors une des façons qu'on a eu de mettre ça concrètement en branle, c'était d'adopter un peu sur le modèle de ce qui s'était fait en France par le groupe Agir contre le chômage et l'exclusion, une carte de droit au transport qu'on a réinventée à notre sauce et qui permettait d'une part de connecter une pratique individuelle à une revendication et de groupe, et d'autre part de mettre en jeu ces pratiques de non-paiement dans une forme de coming out en sortant de la clandestinité, quelque chose qui est omniprésent, en tout cas qui est très, très fréquent, hein, les taux de fraude sont massifs, c'est pas nouveau. Mais chaque fois dans l'invention d'une mise en risque des autres acteurs auxquels on a affaire. Donc dans un train, dans un tram ou dans un bus, présenter cette carte de droit au transport, cet artefact politique ou cet abonnement autonome, c'était une façon aussi, pas simplement de faire valoir qu'on a besoin de se déplacer, point à la ligne, et que c'est un droit, mais aussi s'informer sur qu'est-ce que c'est une société de transport, comment ça marche par rapport aux personnes qu'on a autour de soi, que ce soit les autres usagers autour, que la démarche pouvait interpeller aussi avec les travailleurs, avec les accompagnateurs de train ou les contrôleurs qu'on remettait en risque en leur disant, en leur expliquant les dessous de la situation et en sortant un peu autant que faire se peut de la posture et de la fraude et du monsieur à képi, quoi. Essayer de créer chaque fois ces interstices de dialogue qui sont pour nous le lieu par excellence où on peut réinventer quelque chose, quoi.
Donc là on part sur la question du terrain, de la pratique que vous avez développée, des pratiques collectives que vous avez développées sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes avec des exemples de pratiques de terrain, de rapport aux usagers, donc.
Bah, le rapport aux usagers, disons qu'on l'a décliné avec trois dispositifs depuis le début de l'année 2000. Le premier dispositif, disons, ça, c'est l'assemblée des usagers, c'est-à-dire c'est le lieu d'échange de paroles, hein, c'est cet espace-temps où chacun qui a entendu parler du collectif Sans Tickets, qui voudrait en savoir plus ou qui aurait des idées à amener, peut rencontrer ses pairs en dehors des institutions et à partir de son expérience personnelle et ses problèmes, voir comment on peut faire de ça et de ses savoirs mineurs, voir comment on peut faire de ça un savoir opérant ou quelque chose qui soit intéressant pour chacun, pas simplement une addition d'opinions. C'est le lieu où les usagers peuvent échanger et où des gens de différentes classes sociales, différentes origines peuvent causer de ce quotidien où les transports ont une place importante. Un deuxième dispositif qu'on a mis en branle, c'est une campagne de contre-information sur le thème de la fraude, avec des petits stickers, des petits autocollants qui venaient en contrepoint par rapport à une campagne qu'on estimait scandaleuse de la part de la Société de Transports Intercommunaux Bruxellois et qui stigmatisait les fraudeurs en leur faisant porter le chapeau de la rupture du lien social, etc., etc. Là aussi, encore une fois, on s'est servi, comme pour la carte de droit au transport, de ces autocollants comme d'interface pour rentrer en contact, cette fois-ci principalement avec le personnel roulant, les conducteurs à Bruxelles de tram et de bus, en leur proposant d'appliquer sur leur véhicule ce petit autocollant dont le slogan est « ni fraude ni accès payant », donc renvoyant dos à dos le phénomène de la fraude tel qu'il est construit, avec les conditions de sa production, à savoir le barrage économique à l'entrée des véhicules. Ça nous a donné pas mal de visibilité. Et puis une action qui est venue, une forme d'intervention publique qui est venue quelques mois après et qui a eu un certain succès aussi, c'était les opérations Free Zone, donc zone libre ou zone temporaire de non-paiement, où à l'intérieur du réseau bruxellois, on avertissait les usagers de la présence éventuelle de contrôleurs en leur offrant ce service d'information de dire soit la voie est libre, soit attention à telle ou telle station, il y a risque de se choper des prunes, et donc prenez vos dispositions, quoi. Voilà, ça c'était les opérations Free Zone qu'on a mis en place assez simplement avec quelques téléphones portables, une équipe qui sillonne le réseau habillé de façon ordinaire et puis qui prévient d'autres, une seconde série d'équipes qui elles interviennent de façon beaucoup plus théâtrale dans les véhicules, en sensibilisant, en tentant de sensibiliser les usagers déjà sur la faisabilité de cette gratuité et tous les aspects économiques que ça recouvre, et en essayant d'éviter autant que faire se peut les lourdes poursuites qui frappent les non-payeurs, qui évidemment ne sont pas des gens qui auraient de mauvaises intentions, mais bien tout simplement des gens qui ont besoin de bouger, qui n'ont pas les moyens.
Petite question, quelle a été la réponse de la société de transport de Bruxelles ? Parce que tu parlais de visibilité, donc si vous étiez visible vis-à-vis des usagers, vous l'avez été sûrement aussi vis-à-vis de la société qui exploite le réseau des transports à Bruxelles.
La réponse, on peut dire qu'elle a été à la mesure de leur décontenance, de leur incapacité à comprendre réellement ce qui se passait. Dans le sens où les opérations Free Zone, donc d'avertissement des autres usagers quand des contrôles avaient lieu, on les avait pensées pour éviter justement toute confrontation. C'est généralement quelque chose qu'on essaie de prendre en compte, le fait que si une évolution vers, par exemple, l'accès gratuit au transport en commun a lieu, ce sera nécessairement en coopération avec tous les acteurs dans le domaine. Bon. Et à nos yeux, les contrôleurs, on peut en penser ce qu'on veut, mais on n'en fait pas des ennemis et on ne gagnerait rien, tout au contraire, à rentrer en confrontation directe avec eux. Donc les free zones, elles ont toujours eu lieu dans un cadre où notre seule arme, c'était la parole, le fait de s'exprimer publiquement pour dire il y a des contrôles et par ailleurs l'accès gratuit est possible, nous sommes un collectif, voici ce que nous faisons. Donc les réglementations internes à la société de transport ou les lois plus généralement n'interdisent en rien de s'exprimer de cette façon ou dire ce qu'on a envie de dire. En principe, elles sont là pour le garantir. Bon. Donc la société de transport n'a pas pu nous attaquer autrement qu'en déployant, en utilisant la grosse artillerie, en déployant le maximum d'ingéniosité pour trouver des chefs d'inculpation en quelque sorte. Il faut préciser d'ailleurs que pendant les free zones, on prenait bien soin, nous, d'avoir un titre de transport. C'est le seul moment, c'est assez amusant, c'est le seul moment où sur une semaine, quand on organisait toutes les semaines une free zone, on avait pendant 2-3 heures sur nous un titre de transport validé. Puisque l'intérêt était de, si on rencontrait malheureusement des contrôleurs, de ne pas se choper plusieurs PV qui allaient alourdir inutilement notre ardoise, alors qu'on était là pour assurer un service. Bon, on n'était pas comme usagers simplement. Et donc ils ne pouvaient pas nous mettre sur le dos absence de titre de transport, et ils ne pouvaient pas simplement dire vous êtes là à commettre un acte délictueux. Donc ils ont sorti du chapeau diverses appellations, enfin diverses dispositions légales qui sont association de malfaiteurs, usurpation de fonction, où prétendument on prend la place du personnel, en l'occurrence des contrôleurs, c'est assez cocasse. Le fait de désorganiser le réseau, faux et usage de faux, trouble de l'ordre public, bon, il y a une douzaine de motifs de cet ordre-là. Et leur manœuvre a consisté à demander au tribunal, en extrême urgence, il paraît qu'il y en avait une, de nous imposer pour l'avenir, lorsqu'on annonçait des contrôles ou qu'on apposait des affiches sur le réseau, des choses comme ça, nous imposer une astreinte, donc une amende par acte qu'on aurait commis, et un peu comme dans les conflits du travail quand il y a un piquet de grève par exemple, pour faire cesser l'hémorragie qu'ils auraient subi, les pertes financières, etc., qui n'ont jamais chiffré d'ailleurs. Et l'astreinte en question, c'est environ 750 francs français, bon, 750-800 francs français. On peut vite chiffrer quand on fait une free zone, on annonce un contrôle, bon, c'est déjà 4000 francs. Les affiches, on en collait une centaine sans problème. Bon, ça, c'était des montants. On savait que quand on avait un paquet de tracts avec soi, on en avait pour plusieurs millions de francs de valeur potentielle au niveau du tribunal. Donc ils sont passés comme ça, en s'en prenant à nous de cette façon-là. Ce qui, évidemment, a eu pour conséquence exactement le contraire de ce qu'ils attendaient, puisqu'ils ont utilisé une artillerie tellement grosse que ça a soulevé l'indignation de toute personne à qui on en parlait, qu'elle ait été syndicaliste, usager ou aux mêmes responsables politiques. Bon. Donc on en a un peu profité en lançant un appel à soutien, qui a d'ailleurs été une opportunité de rencontrer divers acteurs qu'on n'avait jamais pu approcher spécialement, parce que là, il y avait un objet pratique, notamment du côté des travailleurs et des syndicats. Il est clair qu'en utilisant pour la première fois aussi massivement l'outil, l'arme de l'astreinte, il y avait une identité dans ce qu'on subissait avec ce que les travailleurs dans diverses situations ont à subir de la part du patron qui fait appel aussi à la justice. Donc il introduit la justice dans un conflit du travail, là où ça n'a pas lieu d'être, en criminalisant une pratique collective de piquet de grève, d'occupation, etc. Mais pour une des premières fois, ce type de pratique judiciaire se transférait sur le terrain d'un débat qu'on peut appeler de société civile, où nous n'avions rien à voir en tant que travailleurs avec la STIB. Donc, de ce point de vue, ça a suscité énormément d'indignation. Et le procès lui-même a eu lieu en octobre 2001, avec une façon aussi pour nous de retourner le caractère parfois un peu pathétique de ces moments de procès, en jouant à fond le caractère ludique et en se disant, bon, c'est un moment parmi toute la démarche qu'on essaie de développer où publiquement des choses peuvent éclater, y compris notre joie à intervenir en tant qu'usager et la capacité qu'on a, même si on n'est pas 500 000, à faire changer les choses. Et donc, on a pris au pied de la lettre ce qu'ils avaient voulu voir dans notre action. Ils nous disaient association de malfaiteurs, donc la vingtaine de personnes poursuivies, parce qu'il y avait 20 usagers qui étaient poursuivis pour ça, se sont vêtus en mafiosi des années 30, avec un Borsalino, cigare, lunettes noires, le Wall Street Journal, le complet costume cravate, et les filles, bon, des habits du même type, mais avec des boas, des choses comme ça. Et tout le monde s'est retrouvé sur les marches du palais de justice de Bruxelles, vêtu de cette façon, avec environ 200 autres usagers venus soutenir. Et c'est toujours dans un cadre où réellement la démarche est celle d'usagers. Donc il n'y a pas, le collectif Syntiquet n'est pas un groupe d'organisation ou de collectif politique par ailleurs. Et bon, parfois ça nous a été dit que c'était assez tranchant avec ce qu'on peut trouver dans d'autres situations. Il n'y avait pas un drapeau ou un tract d'organisation diffusé lors du rassemblement en question. C'était vraiment un réseau d'usagers qui avait apporté ce qu'ils voulaient développer devant la justice. Bon. Le procès lui-même n'a pas été particulièrement palpitant, et le résultat, qui est la situation actuelle, c'est un jugement mi-figue mi-raisin, où la présidente reconnaît qu'il existe une liberté d'expression garantie par la Constitution, que certaines des choses que nous faisons en termes d'intervention orale, de diffusion d'informations ou de discussion avec le personnel sont couvertes par cette liberté d'expression, ne doivent pas être poursuivies. En revanche, elle admet les exigences de la STIB, elle a admis dans son jugement les astreintes en question pour d'autres choses qui sont à nos yeux l'expression pratique de cette liberté d'expression, à savoir apposer des affiches sans autorisation, donc apposer des affiches sur le réseau de la STIB, annoncer les contrôles, ça c'est soumis aussi à des astreintes désormais, et essayer de rencontrer les travailleurs dans les lieux de repos, genre le dépôt ou les endroits même de billetterie où ils vendent les billets, qui ne seront pas accessibles normalement au public. Donc ces trois dimensions-là, elles sont désormais soumises à des astreintes si on essaie d'encore les mettre en pratique. Alors bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y avait des aspects dans les poursuites qui allaient même au-delà du simple fait qu'on veuille nous interdire de parler lorsque des contrôles avaient lieu. C'était une volonté d'empêcher tout contact entre les usagers que nous sommes et les travailleurs, et même entre usagers, puisque les astreintes en question, elles pouvaient aussi nous tomber sur la gueule quand on essayait d'établir une relation avec un conducteur, mais indépendamment de ce qu'on disait, le simple fait de se mettre en rapport comme ça était vécu comme une intrusion. Il n'avait sans doute pas pensé jusque-là qu'en dehors des questions de demander son chemin ou savoir combien coûte le trajet, il puisse y avoir un échange concret entre ceux qui sont des deux côtés du service, si on peut dire, mais qui sont les premiers concernés par ce service. Et donc ces aspects de demande d'astreinte pour la simple parole échangée, la juge ne les a pas retenus. Mais au total, ça nous donne quand même, à nos yeux, une jurisprudence négative qui notamment instaure une espèce de délit d'appartenance, vu que sur la vingtaine d'usagers poursuivis, certains avaient seulement, s'étaient vus reprocher seulement d'être présents sur les faits, lors des faits, en tunique blanche, puisque pendant les free zones, on avait la plupart du temps des combinaisons blanches pour se rendre un peu visible. Et donc nos avocats ont dit, la seule chose qu'ils reprochaient à ces personnes, c'est d'être dans le métro avec une combinaison de peintre, quoi, de se balader comme ça. Et de fait, c'était la seule chose qui était reprochée. Et bien, peu importe, la juge a quand même considéré qu'ils avaient, ils étaient potentiellement dangereux par leur simple solidarité envers le collectif. Donc c'est un délit d'appartenance, bon, qui peut valoir dans toute autre circonstance, qui est extrêmement dangereux pour la suite. Et donc c'est l'une des choses qui nous a amené à faire appel. C'est la situation actuelle. On est maintenant en attente du passage en appel qui aura probablement lieu en avril ou en mai de cette année 2002.
Donc condamnation aussi financière quand même, parce qu'au niveau matériel, vous avez quand même des amendes à payer, ou strictement ça reste sur le fait des astreintes, c'est-à-dire si en gros vous recommencez, vous serez puni de façon financière. C'est comme ça qu'il faut l'entendre en termes matériels. Et donc quelles perspectives aujourd'hui vous donnez aux luttes que vous avez menées jusqu'à présent ? C'est-à-dire, bon, vous avez fait un travail d'expertise, de contre-expertise, un certain nombre de choses autour de la question de l'accès au transport. Aujourd'hui, bon, je crois que vous bougez un petit peu. Vous avez rencontré aussi des gens qui sont en lutte et qui s'organisent dans différentes villes en France, peut-être ailleurs, je ne sais pas. Il y a un bouquin aussi qui est sorti, qui compile et qui reprend votre combat depuis plusieurs années, avec quand même beaucoup d'explications en termes politiques. Aujourd'hui, vous voulez, je sais pas, poser quelles perspectives par rapport à tout chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent.
Les perspectives sont nombreuses. Hein. C'est vrai que l'écriture collective de cet ouvrage, le livre Accès, c'était un peu, si pas une façon de tourner la page, en tout cas une façon de proposer. La somme, enfin c'est pas une somme quoi, mais la compilation de 3 années d'expérimentation, la mettre dans le domaine public et que chacun puisse se mettre à niveau. Ça correspondait aussi à une époque où on était en comme vient de le dire Laurent, traîné entre guillemets devant les tribunaux, mais aussi à je pense aux 6 derniers mois là, à un moment où nul n'est prophète en son pays, c'est en France paradoxalement peut-être, et on s'en réjouit que notre démarche peut-être a eu le plus d'écho, avec toute une série de collectifs ou d'initiatives qui naissent ou qui renaissent, non pas sur le modèle du collectif Santiquet, mais en s'en inspirant de près ou de loin et en fonction des spécificités locales. Je crois que les rencontres de ce week-end en témoignent. Il y a ici, je ne sais pas, une vingtaine de villes qui sont représentées avec des gens qui sont, me semble-t-il, bien décidés à avancer sur ces questions-là. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années après la décrue, disons, du mouvement des chômeurs. Maintenant, les perspectives qu'on se donne après ça, on n'a certainement pas fait le tour du problème, mais peut-être une des choses qu'on a envie de mettre en route là au printemps ou vers l'été, c'est de réinventer ces free zones dont on parlait tout à l'heure, mais peut-être de déplacer le terrain, de les faire sortir simplement de sortir la problématique simplement de la question de la tarification du ticket et de l'accès aux véhicules de transport public, pour la poser sur la ville entière, c'est-à-dire pour la poser au niveau de l'aménagement du territoire et des flux de circulation et tout ça, avec cette idée aussi que ça va certainement nous apprendre beaucoup de choses et nous permettre des alliances avec d'autres gens qui sont intéressés à comment est produit socialement une ville, comment elle est codée, comment il y a moyen de la décoder avec des interventions directes, et multiplier les de façon probablement temporaire et ancrée dans le local des contre-expertises sur comment ça fonctionne un quartier par exemple. Donc ça veut dire intervenir par exemple sur la signalétique, bloquer des rues ou ralentir des flux de voitures pour montrer qu'il est possible de réinventer des plans d'aménagement de la ville autrement, en s'associant avec des groupes de cyclistes, des gens qui ont étudié la chose peut-être plus avec un point de vue d'expert sur les questions d'urbanisme ou de mobilité, et de voir qu'il y a moyen de faire les choses autrement, de façon participative et et par le bas, quoi. Je pense par exemple dans les écoles d'urbanisme et d'architecture, doit y avoir des grosses frustrations par rapport au type de commandes publiques qu'ils ont et qui sont assez peu bandantes en termes de créativité ou en termes de libre circulation, qu'il y a là toute une série de gens avec lesquels pour certains on a déjà travaillé, qui seraient prêts à venir apporter leurs énergies aussi pour essayer de repenser ne serait-ce qu'un boulevard ou un quartier.
Est-ce que vous pensez qu'on peut rajouter encore quelques petites choses en dehors des perspectives et des initiatives que vous allez mettre en route dans les semaines et les mois qui viennent, en dehors du fait que ça continue?
Un procès européen, peut-être.
Un procès européen?
Oui, il y a cette perspective-là. Perspective, en tout cas, cette échéance qui vaut à partir du cas de la SNCB, donc la Société Nationale de Chemin de Fer en Belgique. On n'en a pas encore parlé, je ne veux pas s'étendre. Il y a également eu des procès de leur côté, puisque la carte de droit au transport, nous l'utilisons autant jusqu'ici sur les réseaux urbains que sur les chemins de fer. Et la Société de Chemin de Fer s'y est prise fort différemment. Elle n'a pas essayé d'attaquer sous l'angle de la démarche politique ou du type de questions qu'on soulève. Elle a considéré que nous étions une série d'individus fraudeurs, en se référant à un arrêté royal de 1895 qui détermine les conditions. Voilà, quand t'as pas de titre de transport, voilà la procédure à suivre. On s'est retrouvé devant notre tribunal de police tout d'abord, puis maintenant en appel à pouvoir un peu présenter la démarche, à engager un échange avec le procureur et le président. Mais au total, ça se solde par des condamnations. On ne s'attendait pas vraiment à autre chose. Donc 18 personnes en ont pour des sommes. Tu parlais tout à l'heure de problèmes ou d'aspects matériels. Là, il y a des sommes, Vincent par exemple, a pour environ 15 000 francs français maintenant d'amende qui lui tombe dessus et qui pourrait aboutir à des saisies, des choses comme celle-là. Bon, on va négocier cet aspect en modifiant peut-être un tout petit peu notre approche, l'usage de la carte à la SNCB notamment, pour d'autres raisons, parce qu'il n'y a pas de notre part de travail encore sur ces dimensions pour le moment, et ça n'a pas suscité une dynamique très très étendue, contrairement à ce qui s'est passé dans les transports urbains. En revanche, sur le plan des procédures judiciaires, il y a effectivement une échéance qui se manifeste, c'est-à-dire qu'on va poursuivre en passant devant la Cour de cassation. Donc ça a été jugé en appel, on est condamné, confirmation de la condamnation. Mais devant la Cour de cassation, il y a quelques probabilités que, en tout cas, les questions que nos avocats posent depuis le début et qui mettent en tension les contradictions propres au texte européen, que ces questions-là soient posées au niveau de la Cour européenne de Luxembourg. Ce qui aurait diverses vertus, notamment de mettre entre parenthèses, d'après ce qu'on sait, énormément de procédures de poursuite de personnes n'ayant pas payé leur titre de transport, parce que les questions, en tout cas en Belgique, gèleraient les poursuites engagées, vu que les tribunaux habituels n'auraient plus suffisamment d'éclairage pour pouvoir continuer à condamner. Et donc ce sont des questions telles que le fait qu'une société de transport anciennement nationale, qui parfois est quasiment privatisée, mais quand même qui reste monopolistique, a la capacité d'externaliser, donc de faire porter à la collectivité tout entière le coût des poursuites qu'elle engage contre des contrevenants, leur identification, le coût administratif des PV, etc. Alors que une société commerciale d'autocar, par exemple, n'a pas cette faculté. Tu ne remplis pas la part de contrat que tu dois remplir en tant que client, bon ben, tu te retrouves devant un tribunal de commerce, pas devant un tribunal de police. Dans le cas des sociétés de chemin de fer, c'est une espèce de législation ou de juridiction d'exception. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en cause par rapport au texte européen. Il y a d'autres aspects, notamment la discrimination. Par exemple, le fait qu'un RMiste, donc en France, ne peut pas bénéficier des réductions qui sont valables sur le réseau belge pour l'équivalent des RMistes en Belgique, les minimexés. Bon, c'est une dimension qui peut sauter aux yeux quand, du point de vue européen, on affirme qu'il doit y avoir une liberté complète de déplacement des marchandises, etc., y compris, paraît-il, des personnes. Ici, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'équivalence. Donc on met ça en cause à partir du texte de l'Union européenne, de l'Union. Et on ne sait pas quand aura lieu le procès, mais ça devrait avoir lieu dans les 2 à 3 ans à venir. Et donc là, c'est quelque chose à construire entre groupes qui travaillent sur ces aspects à travers l'Union européenne. Donc déjà entre groupes, entre Belges et Français.
En l'occurrence, peut-être dans d'autres pays à venir, peut-être l'Italie, peut-être la Suisse. les gens sont organisés aussi localement.
En Suisse, nous, on prépare une tournée là pour le mois de juin. Je pense qu'il y a des choses qui intéressantes qui peuvent se dégager, notamment sur les aspects qu'on n'envisage pas assez, je trouve, les aspects environnementaux qui sont toujours liés aux différents modes de mobilité. Bon, si on place ça dans le contexte, je serais curieux d'avoir les chiffres, mais à n'en pas douter, l'explosion du parc autoroutier des camions dans les 10 dernières années, c'est quelque chose qui crée des dégâts assez incroyables. Et là en Suisse, ils ont une position intéressante par rapport à ça. D'une part, ils ne font pas partie de l'Union européenne. Ils ont une certaine sensibilité environnementale sûrement plus développée qu'en France ou en Belgique. Et puis avec ce qui s'est passé là dans les tunnels en Italie et au Mont-Blanc, je pense que là il y a quelque chose d'intéressant aussi en termes de contre-pouvoir du côté des usagers, de dire mais non, on ne veut plus 10 038 tonnes qui passent par jour, sinon ce sanctuaire qu'est le Mont-Blanc, ben, d'ici deux générations il n'existera plus, et qu'il y a un coût social à ça dont on ne veut pas prendre la responsabilité, par rapport auquel on peut créer une forme de veto, entre guillemets, veto citoyen, je ne sais pas comment il faut l'appeler, quoi. Donc ça, c'est pour la Suisse, c'est un terrain qu'on va un peu explorer, voir les assos là-bas, comment elles travaillent. Sinon, du côté de l'Espagne, oui, on a des bons contacts avec Madrid. Il y a une traduction en espagnol qui se prépare pour l'instant du livre Accès, à suivre.
Et donc à suivre, beaucoup de chantiers en route. On remercie les deux camarades du collectif Sentiquet de Bruxelles, donc qui ont participé à cette interview qui a été enregistrée lors des rencontres des collectifs transports gratuits à Lyon les 23 et 24 février 2002.